Chose que ça me vos deux interventions en miroir, ce qui ne se pétrifie pas justement dans ce dialogue, enfin, tel que je l'entends, sur la question de la visibilité, parce que dans l'intervention d'Henri Pierre, en fait, la question de la globalisation justement qui est traitée est en arrière-fond sans être directement interrogée en tant que telle à aucun des niveaux, ni au niveau de ces nouveaux brouillages entre espace privé, espace public, et comment du coup cette sphère de l'intimité se redéfinit. Et puis sur la question de la visibilité elle-même. Donc, question par rapport à ça, simplement, puisque vous avez cité à pas du rail, par rapport à les conséquences culturelles de la globalisation et cette notion d'ethnoscape qui est complexe et qui est en même temps stimulante, avec l'idée justement que il y a dans ces recompositions culturelles une importance qui est donnée à l'image, à la mise en spectacle, à la construction imaginaire de soi. Et d'ailleurs, il fait de l'imagination une des clés importantes pour comprendre comment se refabrique le sens dans le monde contemporain. Alors, avec du coup des processus qui posent un tas de problèmes aux ethnologues. Je pense au livre d'Antoinette Moulinier et de Jacques Galinier sur les néo-indiens, où il s'attaque donc à comprendre un mouvement qui est en plein dans ces phénomènes de globalisation, avec des connexions avec un réseau New Age, avec des connexions vers les vrais Indiens, en même temps une importance du contexte urbain aussi en tant que scène de confrontation, en tant que scène de mise en spectacle, et en même temps on a affaire à un processus culturel justement qui travaille là de façon différente de ce que disait, enfin j'ai l'impression Henri Pierre, parce que pointe Henri Pierre quand il parle d'esthétisation. De mise en spectacle avec toute cette analyse qui a été faite. C'est-à-dire qu'on a affaire là à des mouvements qui vont utiliser sciemment la mise en spectacle avec du coup des logiques qui semblent complètement iconoclastes pour l'ethnologue académiste, parce qu'on va se mettre côte à côte des symboles qui sont issus de différentes traditions, on va refabriquer quelque chose qui est présenté comme étant authentique, etc., avec une importance qui est donnée aussi au rassemblement collectif, à l'émotion, etc. Et du coup, avec l'impression pour la plupart des ethnologues qui ont du mal à travailler là-dessus, qu'on a affaire à quelque chose qui n'est pas, c'est pas les vrais Indiens, les vrais, les authentiques, avec justement une culture qui serait transmise par la pratique, parce qu'il y a cette importance du spectacle, de la mise en scène, de l'artifice dans la fabrication même de la culture, dans la fabrication même de ces mouvements de renaissance culturelle. Saline, ceci, je trouve, en dit des choses intéressantes. Donc, simplement, du coup, dans cette utilisation qui est faite par un certain nombre de mouvements culturels ou sociaux aujourd'hui, de cette logique du spectacle, de cette logique de la mise en scène, hein, de cette logique qui correspond, s'il y a une lutte, hein, culturel, politique, être visible justement, être visible et imposer par le spectacle une nouvelle interprétation, un nouveau découpage, une nouvelle interprétation du réel, des identités, un nouveau type de classement, de positionnement des uns par rapport aux autres. Il me semble que par rapport à tous ces phénomènes, du coup, c'est l'analyse d'Henri Pierre qui fonctionne très bien sur un certain type de mise en scène. Là j'ai simplement des questions par rapport à ça. En vrac aussi, excusez-moi, hein, c'est un peu désordonné, mais ça lancera peut-être la discussion, puis ça permettra de la préciser après. Sur la dimension, là encore, apportée par l'intervention de Marc Abélès, sur les espaces de globalisation, le fait qu'il y a une recomposition globale et que du coup, on ne peut plus raisonner simplement dans un espace. On ne peut plus. Alors, certains le disent très bien, comme Ulrich Beck, qui dit que le sociologue aujourd'hui doit sortir justement des cadres à partir desquels s'est fondée la sociologie, qui étaient aussi les limites de l'État-nation, et une façon de penser la société uniquement par rapport à cet horizon-là. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de penser une multitude d'autres réseaux, d'autres logiques. Et là, je pense simplement aux analyses d'Anertz, qui est peu citée, qui est peu... qui est peu utilisé en France et que je trouve moi très stimulant sur Cultural Complexity. Et où il met justement, il distingue quatre réseaux, alors dit-il, d'organisation du sens aujourd'hui. Le premier étant ce qu'il appelle Anertz, Ulf Anertz. Le premier étant ce qu'il appelle la form of life, c'est-à-dire ça correspond à ce premier degré de là où l'espace-temps est un peu structurant justement, c'est comment la culture se fabrique dans l'intersubjectivité, dans un espace commun, etc., avec tous les mécanismes liés à la routine, à la répétition, à la légitimation, à l'institutionnalisation, etc. Ensuite, deuxième réseau d'organisation du sens, dit-il, c'est ces mouvements, mouvements sociaux, mouvements politiques, etc. Et ensuite, il y a deux autres réseaux qui sont aujourd'hui en concurrence, mais donc lui n'exclut pas l'un par rapport à l'autre, c'est les réseaux de l'État, qui restent pour lui, au contraire d'Apa Durail, un réseau structurant, et puis, d'un autre côté, les réseaux du marché. Donc ça aussi, ça me semble intéressant pour repenser cette question aujourd'hui de la reconfiguration du sensible et ces nouveaux rapports aussi aux politiques de penser aussi la question de la concurrence entre les réseaux du marché et les réseaux de l'État et dans ce que ça produit de manière différente en termes justement de alors à la fois de formatage de visibilité et puis de sens voilà. Alors, encore, toujours en vrac, tu parlais, Henri-Pierre, d'atmosphère de résignation collective qui s'exprimerait par cette compassion universelle. Simplement, alors, de façon non structurée, c'est qu'on est on est quand même dans un contexte un peu curieux aujourd'hui. Alors, il faudrait peut-être revenir à la rue, à la ville, justement, la façon dont aujourd'hui, un certain nombre de colère, de refus s'expriment. S'expriment comment ? Par des voies classiques que sont la manifestation. S'expriment par un certain nombre de tentatives. Je fais bien sûr référence au mouvement des enseignants-chercheurs dont on ne sait pas comment on va sortir et qui est quand même un enseignement curieux par rapport à toutes ces questions aussi, il faut bien en parler. C'est-à-dire, depuis le 9 février, majorité d'universités en grève, on n'a jamais tant manifesté une à deux fois par semaine dans la rue, sur le pavé, ensemble, où là, il y a de l'émotion collective, il y a un partage d'espace, il y a une imagination aussi... assez, je trouve, intéressante dans les pancartes que chacun se fabrique, dans les slogans, dans les etc., qui ne sert strictement à rien, absolument non visible, ça n'existe pas. Tentative, du coup, un peu partout dans toute la France, des enseignants-chercheurs, des étudiants, de créer des actions dans l'espace public, donc d'utiliser les outils des artistes pour faire des lectures publiques, des fuis. À un moment donné, à midi pile, on lit un texte, on s'arrête, après tout le monde repart, de faire des lectures dans l'espace public, cette ronde des obstinés qui a enfin trouvé une façon de s'arrêter et puis qui dit quand même qu'elle va reprendre, etc. Enfin, là, bon, un tas de manifestations dans l'espace public, une tentative, donc on n'est pas du tout là dans la résignation collective, une tentative d'être visible en occupant l'espace, en occupant les espaces médiatiques avec toutes les querelles que vous avez certainement suivies avec les grands médias nationaux justement sur leur façon de ne pas traiter ou de traiter sous un certain angle qui se reflète plutôt les dépêches de l'AFP que les points de vue de la communauté universitaire donc de ne pas faire un écho à ce qui se passe justement dans la rue de façon concrète. Donc là il y a aussi des choses à mon avis des choses à penser. Et dernier, complètement désordre, vous m'excuserez, mais dernière petite chose par rapport à cette ce que Henri-Pierre disait sur cette fabrique de la compassion, cet humanitarisme sentimental qui serait lié aussi à cette résignation. Simplement, petit exemple qu'on a partagé avec Stéphane Tonla sur... là encore, on revient dans la rue. un certain nombre d'interventions policières extrêmement musclées, dans le 19e en particulier, sur le marché de la pauvreté, marché aux pauvres qui se développe, sur le marché des bifins, disent certains, et qui produit de façon spontanée des rassemblements de foules qui sont communément indignées par cette démonstration d'un rapport de force complètement inégalitaire de la police qui saisit des biens de gens qui sont les plus pauvres parmi les plus pauvres, etc., et qui les traite dans l'espace public sans aucun ménagement. Donc, qui fabrique, alors oui, de la compassion, mais de la compassion qui n'est pas résignation. Il y a, à partir de ça, dans le 19e, toute une association de soutien qui s'est... Alors, c'est un tout petit exemple, mais qui, pour moi, est très parlant aujourd'hui, parce qu'on est là, dans la... On est dans les phénomènes de globalisation de façon concrète, avec des gens qui essayent de survivre, avec des gens qui ont pas de place sur cette planète, avec etc. Et puis donc réaction donc spontanée qui a engendré notamment une organisation une association de soutien des bifins de la porte Montmartre, avec des gens qui essayent de trouver des solutions au niveau politique, etc. Donc simplement soumettre cette petit exemple. Réaction un peu à chaud, pour dire qu'il y a là, dans la rue, de façon concrète, fabrique d'émotions, fabrique de compassion, de solidarité, etc., et qui renvoie pas à une résignation collective, alors qu'ils peinent parfois à agir au niveau politique, mais qui n'est pas du tout...
Ça me gêne un peu, parce que là, il y a un malentendu. Moi, alors, je veux dire, c'est une réduction de ce que je dis. Moi, je n'ai pas une position qui a une résignation collective. J'en ai rien à foutre, d'ailleurs, même personnellement. Je veux dire, c'est pas ça que j'ai essayé de montrer simplement comme quoi cette expression, s'il y a, et puis qu'il y a des résistances à une résignation collective, heureusement, enfin, je veux dire, bon, c'est évident, même si ça existe, en tout cas, heureusement que c'est comme ça. Mais moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est plus complexe, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir comment les aspects, et Marc a repris ça aussi d'une certaine façon, comment les aspects de production actuelle de l'idée d'une communauté intimiste introduit et justifie, par exemple, des formes de résignation collective. C'est-à-dire que c'est pas la déclaration qu'on vit dans une résignation collective. C'est de montrer aussi comment au fond, il y a certaines structures sur le public, par rapport au public et l'intime, qui amènent ça, et qui, politiquement, à travers cette idéalisation de la communauté intimiste, produisent des choses comme ça, entraînent et justifient des choses comme ça. C'est pas pareil, c'est pas une déclaration comme ça... Mais quel intérêt ça représenterait de dire aujourd'hui on est dans la résignation collective, c'est un signe de débilité mentale de dire
non,
ça.
Non, mais c'est pas du
tout. Ça m'inquiète.
Non, mais Pierre, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais justement, la question c'était, est-ce qu'on n'est pas là justement à une autre phase de ce processus-là? C'est simplement la question.
Oui, mais
est-ce
moi,
que ça
moi, ce
suscite
que
pas...
d'analyser, c'est comment ça se construit, ça.
Ouais.
C'est pas le résultat. On s'en fout, ça donne un effet comme ça, ça peut donner un effet comme ça. Mais le problème, c'est comment ça... Il y a eu des changements, et Marc aussi a essayé d'analyser des changements par rapport à la globalisation, par rapport à l'idée de survivance par opposition à la convivance, bon, etc. C'est des structures qui bougent. Or, une déclaration n'a pas de sens. Je veux dire, c'est simplement l'idée d'un certain effet, quoi. Voilà, c'est tout, mais sans plus. Ça, vous allez me montrer, tu vas me montrer que dans la rue ça bouge, etc. Bon, bah, évidemment, je veux dire, il y a toujours des gens en colère, même dans le métro, je veux dire, heureusement, oui. Je veux dire, pour moi, ça c'est des évidences, quoi. On peut toujours rechercher partout des éléments d'expression émotionnelle. Il y en a, on en trouvera, et soi-même on en a aussi, heureusement d'ailleurs.
Oui, je voudrais dire simplement une chose qui me frappe, mais je pense aussi qu'on n'est pas du tout, on n'est pas dans une sorte de pessimisme. Je ne crois pas que ça soit le problème, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez frappant aujourd'hui, c'est effectivement, c'est au niveau de ce type de formes de lutte qui sont, comme tu disais, des formes qui débouchent sur rien. C'est par exemple l'idée d'une obstination, l'idée qu'on s'obstine, on tourne et on s'obstine, par exemple. Ça, c'est intéressant. À mon avis, ça serait très intéressant, même d'un point de vue, ceux qui ont participé à ça, d'un point de vue ethnographique, même, d'analyser la manière dont ça se fait. Et ça me rappelle aussi beaucoup de choses qui se passent dans d'autres pays. J'étais au Mexique. Et au Mexique, il y a des gens qui sont installés sur un. Oui, enfin non, j'étais pas au Mexique avant. C'était il y a longtemps. Pardon.
Vous êtes tous foutus là. Non. Tout le monde est mort.
Non. C'est... Et il y a des gens qui sont installés sur le trottoir à Mexico et qui sont des paysans qui ont été dessaisis de leur terre. On leur a pris leur terre et ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années qu'ils sont là, se relayant dans des habitats en carton en fait, et tout près des bâtiments officiels. Donc ces gens sont là et s'obstinent à rester là. Et de temps en temps, ils manifestent, ils se déshabillent et ils manifestent tout nus dans la rue pratiquement chaque semaine. Donc ça continue, et là c'est pas seulement comme ça a été le cas quelques semaines, mais ça fait maintenant plusieurs années que dure ce phénomène. Et en même temps, ils ne sont pas entendus. Donc, c'est une situation qu'on trouve au Mexique, qu'on va trouver maintenant en France. C'est pour ça que je pense que la question à la fois de cette... Et là, on retrouve cette question de la visibilité, du fait que ça vient s'inscrire, je dirais, dans le commun, ça veut s'inscrire dans le commun, ça vient dire que c'est là. En même temps, ça n'a rien à dire de particulier. Il y a une revendication, ou il y a peut-être plusieurs revendications. Mais à la limite, comme il n'y a pas de réponse à cette revendication, ça peut continuer comme ça assez longtemps. Et on peut dire toujours qu'il n'y a pas de réponse possible à cette revendication, puisque maintenant, on est dans un système global qui fait qu'on n'a pas une réponse. Ce qui est frappant, par exemple, dans le cas des universités, c'est que ceux qui devraient porter ces questions, qui sont les partis de l'opposition, les partis de la gauche, par exemple, ou de l'extrême gauche, s'en fichent complètement. Ils ne sont pas, enfin, de temps en temps, font une petite déclaration, mais enfin, ne le prennent pas comme un truc essentiel. Alors que normalement, dans la tradition des socialistes et tout, l'enseignement, l'éducation, c'était quelque chose de prioritaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le fond, je pense que beaucoup sont d'accord, en fait, avec la réforme, avec l'idée que dans la globalisation, le système ayant changé, etc., il faut remanier tout ça, il faut donc... Alors que face à ça, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas, et qui viennent tous les jours le dire. Voilà, c'est tout. C'est ça le mouvement aujourd'hui, c'est ça la politique. Il faut quand même en prendre conscience. On est dans autre chose, on n'est plus dans ce qu'on... Ça n'a jamais existé comme ça, jamais. Et on est plus près de Mexico, effectivement, qu'on était des grandes manifestations. Je me souviens de l'époque sur la laïcité, où tout d'un coup, tout le monde se réveillait, des milliers de personnes dans la rue, des deux côtés, etc. On changeait le ministre, enfin, ça faisait tout un ramdam. Là, ça va rester, ça va... Et c'est pas de la résignation, c'est simplement, là, on constate quand même quelque chose qui est en train de se passer, et dont on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, ce que ça va donner. Hein. Je ne dis pas que... Je dis simplement, voilà. Et la rente des obstinés, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très symptomatique de cette transformation profonde.
Je voulais dire qu'on allait en parler sans doute cet après-midi de la foule, de la rue. Enfin, voilà, ça va revenir. Et il me semble que là, ce qui est proposé, c'est un détour et qu'il faut peut-être accepter pour revenir sur la rue actuelle et sur la foule actuelle, de passer par ce détour. Dans le détour de la survivance, je crois qu'il faut réévoquer ce qui est quand même assez central, je crois, dans le livre de Marc Abélès, qui est le détour par Foucault et le fait qu'on est dans la question des dispositifs et que, dans une certaine mesure, la question de la résignation évoquée par Henri Pierre, elle peut être le produit du dispositif et que la ronde des obstinés, elle peut être le symptôme actif à la fois d'une révolte, mais de l'intériorisation du fait que cette révolte, elle est dans un contexte de résignation, c'est-à-dire qu'on a une conscience relative du non-débouché, relative, et qu'en même temps, on ne sait pas quoi faire avec ce non-débouché, et qu'il y a quelque chose d'une espèce de moment en marge où on refabrique ce qui était appelé une convivence, parce que c'est un lieu un peu de convivence marginale, la ronde des obstinés, entre les gens qui partagent une volonté. cette volonté, elle se heurte à quelque chose qui est connu quand même, au moins depuis Thatcher, parce que ça prend les mêmes formes que la lutte contre les mineurs. La lutte contre les mineurs, on avait aussi un mouvement traditionnel très fort, et on avait face à ça des gouvernants qui étaient déterminés à ne pas entendre. Je pense que depuis le début du mouvement des enseignants-chercheurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une intuition que l'université, tout le monde s'en moque, que les intellectuels sont quand même des gens qui sont un peu des gens ennuyeux dans cette société, ils ne servent pas à grand-chose, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas. Bon, on les réunit parfois dans des colloques, mais on ne sait pas si ça a des débouchés. Et on peut à l'avance s'être posé la question, dans la radicalité de la réponse des gouvernants, s'il n'y avait pas la volonté de faire quelque chose d'analogue avec les mineurs, et que ça avait en plus une portée symbolique, justement, pour désamorcer la place de l'intellectuel encore plus. Et donc, il y a la possibilité autour de cette question de l'opposition entre convivance et survivance, de voir, ne serait-ce que dans les mots utilisés par les acteurs eux-mêmes, sauvons l'université, sauvons la recherche. Qu'est-ce qu'on sauve ? Un cadavre en sursis. Hein ? Donc, on est dans cette question de la survie. On ne sauve pas des corps brillants, etc. Donc, cette question de la survie, elle est à la fois à l'œuvre et à la fois délaissée. Donc, il y a quelque chose là, à mon avis, qui suppose ce détour et qui suppose de réfléchir quand même aussi, je crois que dans ces termes du dispositif, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure quelque chose qui est magnifié à un moment donné, où on se dit vraiment c'est formidable, on retrouve l'enthousiasme, etc., en fait, participe du dispositif de négation même de ce qui est à l'œuvre dans l'action magnifiée. Voilà. Et je pense que ce qui est proposé par le détour Henri-Pierre et le détour Marc, c'est la possibilité de changer notre manière de regarder même ce qu'on fait avec nous-mêmes cœur, comme on disait au XVIIIe siècle. On y met du cœur, mais ce n'est pas parce qu'on y met du cœur qu'on arrive à déplacer le dispositif. Voilà.
Oui, alors la question n'était pas vraiment... Enfin, les exemples croisés entre les le mouvement des enseignants-chercheurs, c'était aussi de poser la question simplement du rôle de l'image, de la visibilité, de la mise en scène et du spectacle dans les nouveaux mouvements. C'était ça, simplement. Pardon.
Je sais pas, tu veux dire quelque chose, Pierre ? Tu veux dire quelque chose ? Non. Moi, il me semble que la question de la visibilité, elle n'est pas donnée sur un seul régime. C'est-à-dire que quand on a une manifestation, je ne pense même pas à celle des enseignants-chercheurs, je pense à celle sur l'éducation nationale, de la maternelle à l'université l'année dernière. Elle s'est déroulée, elle était très vaste du point de vue des personnes, elle s'est déroulée uniquement sur le 5e arrondissement, et les gens ont tourné en rond sur le 5e arrondissement pendant toute la manifestation. Il y a là un parcours qui circonscrit la possibilité d'une visibilité. Mais ceux qui manifestent, finalement, n'ont plus conscience de ce que c'est que manifester, puisque piétiner sur le 5e arrondissement, ça les a un peu énervés, mais finalement, il n'y avait pas de révolte en amont sur le parcours proposé par la préfecture. Ensuite, sur les manifestations récentes du mouvement enseignants-chercheurs, il y a tout une organisation matérielle pour le coup, l'espace policier, qui fait qu'il n'y a personne à l'arrivée de la manifestation, c'est-à-dire à l'endroit où ça pourrait prendre la forme traditionnelle de la politique, qui serait la scène où on va pouvoir se rassembler, débattre, etc. En fait, c'est des cul-de-sac. Ce qu'on organise, c'est des cul-de-sac. Et je pense que c'est intéressant de voir que les manifestations sont organisées sur des cul-de-sac, parce que ça rejoint la question de l'absence de débouchés. Mais ce cul-de-sac, il n'est pas réfléchi en amont sur où est-ce qu'on se donne rendez-vous, etc. Donc il y a quelque chose qui est quand même intériorisé comme quasi normal. Voilà. Il me semble que là, il y a quelque chose d'intéressant.
Et